André d'Hôtel, le pays où l'on n'arrive jamais. Troisième cassette, deuxième face, page 71. Théodule se leva pour allumer l'électricité.
« Vous devez être fatigué, dit-il. Je vais vous montrer votre chambre. Après quoi, je dînerai moi-même. Comment t'appelles-tu ? »
Ce tutoiement soudain enchanta Gaspard. « Gaspard Fontarel. Je suis Gaspard Fontarel. Gaspard Fontarel. Je suis de Lominval, dit-il. » Il dut crier plusieurs fois son nom.
« Eh bien, Gaspard, je dois te confier quelque chose. Un garçon d'Anvers a passé quelques jours par ici. »
En entendant ces mots, Gaspard frissonna des pieds à la tête. Par quel prodige les traces et le souvenir de cet enfant se présentaient-ils sans cesse à lui? Ses yeux clairs et durs.
« J'ai su qu'il s'appelait Drapeur, » expliquait Théodule. Il m'a demandé du pain. Il ne voulait pas autre chose. Il allait errer dans la vallée et la forêt où il devait dormir. Tous les deux jours, je le revoyais et il me demandait du pain. Il ne répondait à aucune question. Un soir, il s'était assis devant la porte sur une pierre pour manger son pain et il a écrit dans la poussière « Je cherche mon pays ». Je n'ai pas compris ce qu'il voulait signifier. Gaspard, si tu le vois à Anvers, tu me donneras des nouvelles de lui.
Mais comment irai-je à Anvers ? Théodule se souciait peu de ce que disait Gaspard. Il poursuivit.
Ici, c'est bien plus ordinaire que tu ne crois. Mon père est fortuné. Il a des manies. Il m'a donné un nom idiot. Et il n'y a pas de quoi crier merveille. Ce que je fais dans cette maison n'a rien de fameux. Comme je suis sourd et pas plus intelligent qu'il ne faut, je cherche à devenir un bon fermier. Et si je distribue du bois et que je bâtis des maisonnettes, c'est parce que cela m'amuse. Ce n'est pas très malin, mais lui, Drapeur, c'est autre chose.
Gaspard devait se redire bien souvent « Mais lui, bien sûr, Drapeur n'était pas un ange, mais il cherchait quelque chose. Et ses yeux disaient qu'il cherchait quelque chose de beau. » « Je le connais, » dit Gaspard.
« Tu le connais ?»
Pour une fois, Théodule avait compris. Gaspard devait dû raconter ce qu'il savait en hurlant presque chaque mot.
« Tu iras à Anvers, » conclut Théodule. « Tu le trouveras. »«
J'irai à Anvers, » dit Gaspard. Ni l'un ni l'autre ne se demandait à quoi cela servirait de retrouver Drapeur, et Gaspard se repentit d'ailleurs de ses paroles inconsidérées. Il prit aussitôt la résolution de rentrer à Lominval aussi modestement qu'il se pourrait, et quelles fussent les réprimandes et les ennuis qui l'attendaient au village. Le jeune Rosidor mena Gaspard dans une petite chambre du premier étage. Avant de se coucher, Gaspard s'accouda à la fenêtre et regarda les forêts lointaines baignées par la lune et le chemin où le jeune Drapeur était passé il n'y avait pas si longtemps. Le lendemain, il se leva tôt. Il descendit l'escalier. Il pensait prendre congé pour retourner à Lominval. Théodule Rosidor l'attendait dans la salle. Il avait lui-même préparé le café.
« Bonjour, Gaspard. Il faut déjeuner. Nous partons dans un quart d'heure. »«
Bonjour, dit Gaspard. Mais où partons-nous ? » ?»«
Marval vient de porter un message et je te présenterai à de bons amis tout à l'heure. »«
Quels amis ? » ?»«
Tu verras. »
Gaspard tâcha d'expliquer à Théodule qu'il désirait retourner à Lominval. Il n'y réussit pas et songea qu'il ne lui restait qu'à fausser compagnie à Théodule Rosidor dès qu'il le pourrait. aussitôt après le déjeuner, Théodule lui montra devant la maison deux bicyclettes appuyées contre le mur.
« Prends celle qui te plaît, »
dit Théodule. « Nous n'allons pas à Anvers à bicyclette, » dit Gaspard. L'autre n'entendit rien. Gaspard ne put faire autrement que d'enfourcher le vélo. Ils partirent et peu de temps après, ils roulaient sur un chemin caoutchouteux au milieu de la forêt. Gaspard ne disait mot. Il ne cessait de penser à la meilleure façon de quitter son hôte. En tout cas, rien ne pouvait l'empêcher de faire ce qu'il voudrait. Ils quittèrent le chemin, prirent un sentier, puis suivirent une étroite piste ménagée pour les chasseurs et qui filait tout droit sur 2 kilomètres. Au bout de la piste, une clairière. Après le rideau d'un nouveau taillis, ils débouchèrent sur une campagne libre avec des villages semés dans l'étendue. Ils traversèrent un champ où le sentier se perdait et parvinrent sur une petite route. Gaspard jugea que le moment était venu. Il rangea le vélo sur l'accotement et fit signe à Théodule qu'il voulait partir seul.
« Impossible, mon ami !» dit Théodule. « Maintenant, tu es en Belgique. Nous avons passé la frontière dans la forêt. Les douaniers connaissent mon père et nous ne risquions rien. » Si tu voulais revenir seul, il t'arrêterait.
Gaspard demeura aussi étonné que lorsqu'il était tombé sur la croupe du cheval Pie. Qu'il fasse ou qu'il dise n'importe quoi, il était entraîné malgré lui loin de l'Omainval. Il resta sans penser et considéra Théodule longuement. Théodule avait le même regard que le coiffeur de Fumet. Le même regard que les gendarmes qui avaient indiqué à Gaspard le chemin qui menait à la ferme de Théodule. Un regard qui interrogeait, mais sans souci de la douceur ou de la cruauté du destin. Aussi bien qu'en ces minutes où il sautait comme une crêpe sur le dos du cheval Pie, Gaspard éprouva une grande insouciance. C'était simplement la vie, avec ses multiples chemins. Il ne répondit rien à Théodule. Les garçons enfourchèrent de nouveau leur vélo et Théodule conduisit son ami en bavardant gaiement à travers la campagne belge. Gaspard regardait avec curiosité autour de lui. Les moindres détails qui signalent une contrée étrangère, bornes des routes, panneaux indicateurs, étalage des petits magasins de village, drôle d'air des habitants, tout cela l'enchantait. Théodule le fit rouler sur des chemins accidentés. Ils traversèrent une grande route, passèrent dans un bois et soudain redescendirent sur la Meuse. Ici, la Meuse apparaissait bien différente de ce qu'elle était en France. Elle ressemblait à un canal, aux rives parfaitement murées et ordonnées. Ils longèrent le fleuve pendant une demi-heure jusqu'à ce qu'ils parvinssent à un quai où les péniches pouvaient accoster. Théodule sauta de son vélo et s'assit sur la berge. Gaspard prit place à côté de lui. Pendant longtemps, ils regardèrent défiler les bateaux. Gaspard ne disait rien. Enfin, Théodule se leva. Il fit des signaux en agitant les bras et se mit à lancer des appels comme une nouvelle péniche s'avançait au milieu du fleuve. Un homme lui répondit de la péniche. Le bateau vint se ranger contre la berge.
« Cette péniche appartient à mon père !» expliqua Théodule. Il en a une dizaine comme celle-ci. Je savais qu'elle passerait la frontière ce matin. Ces gens vont t'emmener à Anvers.
Gaspard ne souleva aucune objection. Il n'avait rien d'autre à faire que de se laisser conduire. Théodule présenta Gaspard à un marin qui le salua respectueusement au titre de protégé des résidors.
Mon ami Gaspard Fontarel, dit Théodule, va jusqu'à Anvers pour retrouver un ami. Vous prendrez soin de lui.
Il se tourna vers Gaspard et lui donna un papier.
Voici le nom de ceux qui t'aideront comme leurs frères si tu leur parles de moi. Ludovic et Jérôme Kramer.
C-R-A-M-E-R.
Les fils de Niklas Kramer.
N-I-K-L-2-A-S. Niklas veut dire Nicolas.
Ils vivent sur leur bateau qui promène les touristes et ils sont presque toujours ancrés, non loin de l'embarcadère, à côté du Steen.
S-T-2-E-N.
Le Steen, c'est un château bâti au bord de l'Escaut. Mais tu verras d'abord la tour de la cathédrale, plus haute que n'importe quel beffroi.
Beffroi, ce dernier mot, était un de ceux dont Gaspard avait rêvé à Lominval. Il prit le papier et serra les mains de Théodule.
Au revoir, lui dit Théodule. Tu me donneras des nouvelles de Drapeur.
La péniche mit 2 ou 3 jours pour atteindre Anvers. Ce n'était pas un voyage immense. Cependant, Gaspard était ébloui par les eaux du fleuve et par les contrées diverses qu'on traversait, comme si soudain la nature se multipliait. Il semblait à Gaspard qu'on avait ici entassé plusieurs mondes. Après Volsort, W-A-U-L-S-O-R-T, Gaspard vit des châteaux sur des collines coupées de bois. Jardins et balustres se mêlaient à la nature sauvage. Plus loin, d'immenses rochers plongeaient dans la Meuse. Citadelles, églises et usines se succédaient. Il y eut des villes, Dinan, D-I-N-A-N-T, Namur, N-A-M-U-R, Andenne, A-N-D-E-2-N-E, Huy, H-U-Y, et puis Liège, L-I-E, accent grave G-E. C'est à Namur que Gaspard vit son premier beffroi. De temps à autre, l'homme qui l'avait accueilli le renseignait sur les noms et les lieux. Par-dessus les collines, vers l'est, reprenait l'immense forêt, et il y avait aussi la Grande Fagne, F-A-G-N-E. C'est une région marécageuse de Belgique. Par des échancrures, on apercevait des ruines anciennes dans des campagnes où l'élégance se mêlait à la rudesse primitive des choses. Toitures, prairies et blés formaient une gracieuse harmonie. Jamais Gaspard n'avait rêvé d'une telle beauté. Ce jour-là, il passa des heures à plat ventre sur l'avant de la péniche. Les eaux lui semblaient immenses. Bleues et vertes, les longues vagues filaient de chaque côté du bateau que manœuvrait une équipe de 2 hommes. Ceux-ci ne demandèrent pas à Gaspard d'où il venait. Ils le firent manger avec eux. Le soir, ils lui réservèrent un lit dans une cabine. On traversa Liège. La péniche s'arrêta pour une nuit après la grande ville, et le lendemain, on quitta la Meuse devant le phare pour suivre le canal Albert. On passa au fond de tranchées immenses creusées dans les collines. Après Hasselt, H-A-2-S-E-L-T, ce fut la plaine. Le paysage, longtemps monotone, s'anima de nouveau lorsqu'on s'approcha d'Anvers au cours d'une autre matinée. Le canal rejoignit l'Escaut au milieu des faubourgs.
Nous allons te laisser un peu avant l'Escaut, dit l'un des hommes. Ici, nous sommes à Merksem,
M-E-R-K-S-E-M.
Tu suivras le canal jusqu'à ce que tu trouves le pont. Sur le pont, c'est la grande route de Rotterdam en Hollande à Anvers. Tu traverseras le pont et tu iras droit devant toi.
Chapitre 5. Niklas et ses musiciens. Gaspard fit comme on le lui avait dit. Lorsqu'il arriva dans les rues d'Anvers, il ne songea pas à demander son chemin. Il marcha au hasard. Personne ne prenait garde à lui. Il contourna d'immenses docks et parvint à l'Escaut plus rapidement qu'il ne s'y attendait. Il passa une grande heure à regarder le fleuve. C'était une large voie maritime. Il vit un cuirassé amarré au quai, des bateaux de plaisance, des péniches qui circulaient. Il ne se lassait pas de regarder l'eau et de sentir le vent de mer qui arrivait sous le ciel bleu par-dessus les landes de l'autre rive. Puis il sentit la faim. Il fourra sa main dans sa poche machinalement. « Pas un sou, » murmura-t-il. Mais dans sa poche, il trouva des billets de banque belges. Théodule Résidor avait tout prévu et lui avait glissé des billets sans attirer son attention. Gaspard alla manger des frites et des moules dans une petite boutique, puis il revint vers l'Escaut. Il erra longtemps sans se préoccuper de chercher ceux à qui Théodule l'envoyait. Dans son idée, une catastrophe devait se produire qu'il chasserait de ce monde nouveau où il s'avançait timidement. Alors il voulut voir le plus de choses possibles. Il suivit Lescaut, gagna la place de la cathédrale, dont il admira la tour, marcha le long d'immenses avenues. Ce ne fut que vers la fin de l'après-midi qu'il décida de revenir vers le Stein et de chercher Niklas Kramer et les fils de Niklas. Il s'adressa à un guichet de l'embarcadère d'où partaient les bateaux pour la visite du port et du fleuve.
« Ah, Niklas Kramer, ils font de la musique sur la plage Sainte-Anne, savez-vous ?»«
Mais où est la plage Sainte-Anne ?» demanda Gaspard.
« Vous prenez l'ascenseur là-bas, plus loin, et le tunnel sous la Scheld. De l'autre côté, vous suivez la Scheld. »
Scheld, S-C-H-E-L-D-E, c'est le nom de Lescaut en flamand. Je te rappelle qu'Anvers est la capitale de la Flandre flamande, Flandre maritime. Gaspard prit l'ascenseur, le tunnel et encore un autre ascenseur, et il se retrouva sur l'autre rive, dans une plaine nue, sans maison, avec des petits bois de saule. De vastes boulevards vides se croisaient dans ce désert. Il arriva sur la plage Sainte-Anne, derrière les champs de glaïeuls. Des maisonnettes, des cafés, des attractions étaient rangées le long de la rive où les herbes se mêlaient au sable et à la boue. Soudain, il fut ébloui à la vue d'un paquebot grand comme 20 maisons et qui sortait des bassins d'en face, derrière les îles entourées de roseaux. Il demeura longtemps à regarder ce paquebot. Il y avait là-haut, sur les ponts du bateau, de petits personnages qui faisaient des signes. « Drapeur !» murmura Gaspard. Il songeait que le jeune drapeur pouvait être parmi ces gens qui partaient. Il éclata en sanglots. Il se reprit. Il devait avant tout suivre son chemin et il se mit en quête de Niklas. Le soir tombait. Les maisons et les paquebots s'allumaient lorsque Gaspard aperçut enfin, vers l'extrémité de la plage, un petit bateau échoué sur un morceau de terre vague. Un homme qui paraissait assez âgé et deux enfants se tenaient sur le pont. Ils achevaient un maigre repas.
« Monsieur Kramer !» appela Gaspard.
« C'est moi-même, » répondit l'homme. « Que me veux-tu ? » ?»«
Je suis envoyé par Théodule Résidor, » dit Gaspard à Monsieur Kramer. « Pourriez-vous m'aider à trouver du travail ?»«
Théodule Résidor !» s'exclama Niklas. « Voici des années que nous ne l'avons pas vu, mais nous ne l'oublierons pas de sitôt. »
Tu vas venir avec nous, mon fils, qui que tu sois. Je te présente Ludovic et Jérôme, mes jeunes musiciens. Attrape ce bout de corde et monte auprès de nous.
Gaspard se hissa sur le bateau. On lui offrit à manger, et après qu'on l'eut questionné à propos de Théodule, on le renseigna abondamment sur la famille Kramer. Niklas Kramer était un homme d'une soixantaine d'années. Il s'était marié sur le tard. Sa femme était morte, le laissant veuf avec deux jeunes enfants. Il n'était pas sans biens ni ressources, mais ses fils ayant été très touchés par l'explosion qui avait rendu sourd le jeune Résidor, il s'était attaché à leur donner une vie paisible au grand air. Il leur avait appris la musique et ils jouaient ensemble, ici et là, tirant quelques petits revenus de la générosité des touristes qui les écoutaient. Dès le premier soir, Gaspard eut une place sur le bateau dans la cabine exiguë où logeaient Ludovic et Jérôme, qui étaient un peu plus jeunes que lui. Il expliqua brièvement à ses nouveaux hôtes, sans entrer dans les détails, qu'il avait dû quitter son pays et qu'il était à la recherche d'un ami qui devait habiter Anvers. Gaspard avait le vague espoir, quoiqu'Anvers fût une très grande ville, que Niklas Kramer aurait aperçu cet enfant remarquable par ses cheveux blonds et la beauté de ses yeux, ou qu'il aurait entendu parler de lui. Niklas haussa les épaules pour signifier son ignorance. Il pria Gaspard de ne pas s'étonner des bizarreries de Ludovic et de Jérôme. Depuis le jour de cette explosion, qu'il leur avait fait subir comme à Théodule un choc assez grave, leur caractère avait changé. Ludovic était devenu querelleur et Jérôme horriblement peureux. Lorsque Gaspard alla se coucher dans la cabine avec ses nouveaux amis, il eut l'occasion d'éprouver leur fâcheuse disposition. Ludovic voulait céder sa couchette à Gaspard, tandis que Jérôme prétendait donner la sienne. Gaspard assura l'un et l'autre qu'ils préféraient dormir sur le matelas que Nicolas avait placé sur le sol de sa cabine. Il s'ensuivit une dispute. « Tu as peur de dormir près du hublot, » disait Ludovic à Jérôme. « C'est pour ça que tu veux céder ta place. » Gaspard songea que le mieux était d'accepter tout de suite le lit de Ludovic, ce qui mettrait fin à toute contestation. Lorsque cela parut décidé, la querelle n'en fut que plus vive. Ludovic se fâchait pour le plaisir. Il criait « Figure-toi que Jérôme a peur d'un homme à barbe rousse. Il prétend que cet homme rôde la nuit sur le fleuve et qu'il vient frapper sur la coque du bateau. « C'est un homme méchant, » disait Jérôme. « Tu le sais bien. »« Il marche sur l'eau, » criait Ludovic. « Il habite sur un yacht, pas loin d'ici, » prétendait Jérôme.
« Alors, fais bien attention, » poursuivait Ludovic, sur un ton assez cruel. « Cette nuit, il va venir. Il passera la main à travers le hublot et il t'étranglera dans ton lit. »
Des larmes coulèrent sur les joues de Jérôme et Ludovic se tut.
« C'est un démon que j'ai en moi, » dit-il enfin. « Rien ne peut m'empêcher de crier et de dire ce qui ne convient pas. »«
Il vaudrait mieux que je prenne la place de Jérôme, » dit Gaspard. Ludovic, furieux, accepta néanmoins. Jérôme fut heureux de s'étendre sur le matelas, dans un coin de la cabine, près d'un tas de vieux cordages qui semblaient l'abriter. On éteignit la lampe. Gaspard demeura quelque temps sans dormir. Il entendait les bateaux passer sur le fleuve. C'étaient des péniches dont les moteurs grondaient doucement. Il y eut aussi de grands bateaux et des vedettes. Ce trafic nocturne sur l'eau calme et sombre avait une allure mystérieuse, comme si certains équipages ne pouvaient accomplir leur travail que dans le secret de l'obscurité. Gaspard passa la tête dans le hublot. Il vit les fanaux de l'autre rive et juste derrière la pointe de la plage, la grande tour de la cathédrale, illuminée par des projecteurs sous les étoiles. Après avoir contemplé ce spectacle, il se fourra au fond de ses couvertures et s'endormit. La nuit n'était pas très avancée lorsque Gaspard fut réveillé par les cris de Jérôme.
« C'est lui ! Je vous jure que c'est lui !»«
Dors !» disait Ludovic. « Gaspard, ne t'inquiète pas, ça lui arrive souvent. »«
L'homme à barbe rousse est contre le bateau, je le jure !» disait Jérôme.
« Je t'expliquerai demain, » dit Ludovic à Gaspard. « Il a peur d'un certain homme, mais c'est un prétexte comme un autre. Il a toujours peur la nuit. »«
Il est malheureux, » dit Gaspard.
« Dors, Jérôme !» dit Ludovic. « Ou bien je vais me fâcher, et Nicolas nous flanquera une volée. »
Jérôme se tut. Il claqua des dents pendant quelques minutes, puis de nouveau succomba au sommeil. Gaspard écouta un moment les bruits du fleuve, et il regarda encore par le hublot. L'illumination de la cathédrale était éteinte. Il ne restait qu'une immense lueur diffuse dans le ciel, au-dessus de la ville. Alors, un bruit de moteur s'éleva vers l'extrémité de la plage et un beau petit bateau apparut. Son phare balayait l'eau. Derrière lui, des flots d'écume se déroulaient dans les ténèbres. Il y avait à l'avant une cabine vitrée où se tenait le pilote. Gaspard aperçut le visage du pilote éclairé par une lampe de bord. C'était un homme à barbe rousse. La vedette disparut rapidement. Gaspard ne restait plus tellement sûr que la barbe de l'homme était rousse, et quand bien même elle l'eût été, il n'y avait pas de quoi trembler. Mais il resta longtemps dominé par un effroi qui ne s'expliquait pas. Le lendemain matin, il se garda de faire allusion à l'homme qu'il avait aperçu. Nicolas et ses fils jouaient leur musique sur la plage, et le matin, ils ne faisaient rien d'autre que répéter leurs morceaux à loisir. Parfois, ils allaient en course, ou encore, ils prenaient soin du bateau. Ce jour-là, ils avaient entrepris de laver le pont. Gaspard les aida. La matinée était claire et joyeuse. Des paquebots blancs ou noirs sortaient des bassins et prenaient la direction du large. Niklas avait décidé que Gaspard pouvait rester avec eux, tout au moins pendant le temps qu'il chercherait son ami d'Anvers. Gaspard serait chargé du ménage et de la cuisine, et on lui apprendrait la musique s'il le désirait. Il assisterait au concert afin de se faire l'oreille. Gaspard, ne sachant en réalité que faire de son corps, accepta cette solution provisoire. Comme il nettoyait le pont, Gaspard demanda « Cet homme à barbe rousse, où l'avez-vous rencontré ?» Ludovic, qui venait de se payer une colère parce que sa brosse se démanchait, saisit l'occasion de faire oublier sa conduite et conta l'affaire à Gaspard. « Nous étions en train de jouer devant un café, » dit Ludovic. « Il y avait cet homme à barbe rousse, attablé près de nous. Il s'est levé brusquement et il a prétendu que la musique l'agaçait. Jérôme a jeté son piston et s'est sauvé. Moi, j'ai injurié l'homme et puis mon père m'a giflé. » Le jour suivant, le hasard avait voulu que l'homme vînt à passer près d'eux alors qu'il jouait pour des touristes devant une des maisonnettes de la plage. L'homme avait regardé Jérôme dans l'intention de l'effrayer et lui avait dit
« Cette nuit, j'irai te serrer la gorge, musicien de malheur !»
Gaspard se mit à rire, mais son rire s'étrangla.
« Cet après-midi, nous irons sur la terrasse du Café Mondial, mes enfants, » dit alors Niklas.
C'était une terrasse à laquelle on accédait par un petit escalier. Les tables des consommateurs étaient dressées autour de l'escalier, ainsi que sur la terrasse, au fond de laquelle s'ouvrait la salle du café pour les jours de pluie. Tout autour s'alignaient des plantes vertes dans des potiches posées sur les piliers de ciment. Gaspard se tint auprès des musiciens et il s'adossa contre un pilier pour se donner une contenance. Ses amis n'avaient pas joué pendant 10 minutes que Gaspard fit basculer la potiche placée sur le pilier. La potiche alla s'écraser au fond d'une petite ruelle.
« Le mal n'est pas grand, nous le réparerons, » dit Niklas.
Presque aussitôt, on vit surgir l'homme à barbe rousse qui se mit à invectiver les musiciens par-dessus la tête des consommateurs. Il devait être ivre.
« J'ai reçu cette potiche sur le bout des pieds. Ils ont voulu me tuer, certainement. N'y a-t-il pas dans ce café un gérant qui soit responsable ?»
Le gérant se présenta, calma l'homme qui s'en fut, non sans menacer Niklas Kramer et ses fils de les faire chasser par la police. On avait eu beaucoup de mal à empêcher Jérôme, épouvanté, de sauter dans la ruelle. Enfin, tout s'apaisa. Le gérant pria les musiciens de continuer leur concert. Sans aucun doute, Niklas et ses fils jouaient excellemment, malgré la composition étrange de leur orchestre. Un piston, une trompette et un accordéon. Fin de la deuxième face de la troisième cassette, André Dautel, Le pays où l'on n'arrive jamais, page 86.